temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
C'est Jean Lumière, je crois, qui chante. Alors, on va faire toute la lumière ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de la Russie, de Courbevoie, de Tchekhov, de pressentiments, de nervous breakdown et même des bronzés fonds du ski. Avec Jean-Pierre Daroussin qui signe « Et le souvenir que je garde au cœur », un livre qui revient sur son parcours de comédien au regard de l'histoire de son père, Manu Farine.
Guillaume Niclou le décrit comme un nonchalant hyperactif, lui se rêve en vieil acteur. Retour sur le parcours d'un comédien qui prône le minimum d'effets et un principe, ne jamais se croire plus intelligent que son rôle.
19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clair. Ce soir, il mettra à son programme la revue Society. Et puis plateau Fin d'un monde avec Lev Dodine qui met en scène La Cerisée d'Anton Tchekhov, une comédie qui annonce 13 ans à l'avance la révolution d'octobre. Lucille Como.
Portrait d'un metteur en scène qui travaille dans le même théâtre depuis le début des années 80. L'occasion d'aborder sa manière de travailler avec les acteurs, en troupe, avec force, répétition et discussion.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagane que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfez.
Todos somos americanos, nous sommes tous américains. Le changement est difficile dans nos vies, dans la vie des nations, mais le changement est encore plus difficile lorsque l'on a à supporter le poids lourd de l'histoire sur nos épaules. Mais aujourd'hui, nous apportons ces changements parce que c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, l'Amérique décide de se secouer des joues du passé afin d'avancer vers un avenir plus brillant pour le peuple cubain, pour le peuple américain, pour toute notre hémisphère et pour le monde.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il est politique, mais il n'est pas du jour.
Oui, il n'est pas un peu sibyllin. Pourquoi un son politique dans le journal de la culture? Alors il s'agit du discours donc, de Barack Obama le 17 décembre dernier, qui marquait donc la restauration des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Aujourd'hui, on l'a dit dans le flash, date historique dans la continuité de ce discours, Barack Obama risque dans quelques heures d'échanger une poignée de main historique avec le dirigeant cubain Raúl Castro au sommet des Amériques au Panama. Et à l'occasion de ce réchauffement assumé entre les deux pays, les artistes cubains et américains tentent d'attirer l'attention sur le cas de l'artiste Tania Bruguera. Elle est cubaine. Elle définit son travail comme un art sociopolitique. Elle travaillait jusqu'ici entre la France, les États-Unis et Cuba. Et elle devait d'ailleurs participer ce week-end à Palais de Tokyo à Paris au week-end No Disturb. Mais elle est retenue depuis le 30 décembre dernier à Cuba, à La Havane. Les autorités cubaines lui reprochent, c'est presque ironique, une performance intitulée Title Whistle 4. Performance qu'elle avait organisée à l'occasion du réchauffement donc entre Barack Obama et Cuba du 17 décembre et dans lequel elle proposait au public de prendre le micro et de s'exprimer pendant une minute comme si Cuba était une démocratie. Ça n'a pas plu. Elle est encore aujourd'hui assignée à résidence et donc empêchée de travailler. Une manifestation est donc prévue en son honneur lundi à New York et nous lui consacrerons un dossier dans le journal de la culture la semaine prochaine.
C'est ce qu'on appelle un teaser. Merci Zoé, on se retrouve lundi. Le journal de la culture le vendredi se poursuit avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagane.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu.
Eh oui.
Vous êtes bien en t-shirt.
Vous aussi, en chemise, je ne la décrirai pas.
Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Eh bien, l'actualité cette semaine, c'est la disparition de la cinéaste et téléaste Nina Companese à l'âge de 77 ans. Nina Companese, fille de scénariste, avait commencé sa carrière dans le cinéma comme monteuse en 1956, puis comme scénariste pour Michel Deville à la fin des années 50, sur 12 de ses films, depuis Ce soir ou jamais. Après avoir réalisé son premier film pour le cinéma, c'était Faustine et le bel été en 71, 8 ans plus tard, elle se tourne vers la télévision et signe la mini-série Les Dames de la Côte avec entre autres Fanny Ardant. Cette série...
Vous avez bien répété, hein, parce qu'au bureau, c'était les Dames de la Côte.
Oui, avec mon accent du Sud. Mais je l'ai retravaillé pour vous, Laurent. Cette série retrace la vie de trois familles bourgeoises et de leurs domestiques, bouleversées par la Première Guerre mondiale. C'était une sorte de Downton Abbey normand avant l'heure. Extrait.
Moi, je dis toujours, un film, c'est une boule. Une série, c'est un fleuve. La série, c'est comme un grand roman, c'est comme ces romans qui m'ont fait, que ce soit...
Oui, donc c'était Nina Companese qu'on va entendre juste après, mais pour l'instant, je voulais écouter un extrait des Dames de la Côte.
Ma tante,
oui,
il faut que je vous demande quelque chose. Quand je serai la femme de Raoul, il faudra que j'habite à Feuilleforte.
Mais bien sûr.
Et voilà. Je n'y avais pas pensé, ça m'est venu tout à l'heure. Je ne veux pas. Quand Raoul repartira au front, je reviendrai à la maison. C'est tout.
Dis-moi une chose, mon petit lapin. Je voudrais être sûre que tu ne confonds pas l'amour assez insensé que ce garçon a pour toi avec celui que tu n'as peut-être pas pour lui.
Je ne peux pas le laisser repartir au front malheureux. S'il mourait, j'en aurais des remords toute ma vie.
Oui, 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 oui.
J'ai tant de peine et tendresse pour lui quand je le vois si pâle. Quand je pense à tout ce qu'il a vécu et à tout ce qu'il attend, je ne peux pas moi aussi le faire souffrir. Je crois que nous, les femmes, nous devons essayer de donner du bonheur à nos soldats.
Oh, c'est beau ce que tu dis là. C'est aussi patriotique qu'un article de l'Illustration.
Voilà, un extrait des Dames de la Côte avec Fanny Ardant. Nina Companès aura marqué l'histoire de la télévision avec ses sagas et téléfilms. Il y a eu Picnic chez Osiris, son adaptation de La Recherche du Temps Perdu, encore Le Général du Roi. C'était en 2013 et c'est justement en 2013 que Nina Companès acceptait de se raconter. C'était au micro de Séverine Yatard dans l'émission À Voix Nue. Et dans l'épisode numéro 3, elle revenait sur son rapport à la série télé et plus particulièrement sur les Dames de la Côte.
Moi je dis toujours, un film c'est une boule, une série c'est un fleuve. La série, c'est comme un grand roman, c'est comme ces romans qui m'ont faite, que ce soit La Recherche du Temps Perdu ou Guerre et Paix. On peut fouiller les personnages, on peut montrer le changement d'un monde. Je pense que c'est plus proche de la littérature, la série télévisée. C'est un mélange de littérature et d'images. Et en fait, j'ai trouvé mon média et j'ai commencé à écrire Les Dames de la Côte, une série sur la guerre de 14, sur l'arrière et les femmes. Sur les femmes, sans montrer la guerre. Et je savais, en l'écrivant, que ça serait le succès que ça a été. Je le sentais, il y avait une telle facilité pour moi à l'écrire, j'étais portée par toute mon histoire. En fait, mon entrée dans moi-même, dans qui je suis, mon rapport à l'histoire et à la guerre, et aux souffrances de la guerre, et en même temps à ce qu'on apprend dans les épreuves, à ce qui vous, comment on se transporte, tout est né avec Les Dames de la Côte. Je peux dire que ça a été ma deuxième naissance.
Voilà, si vous souhaitez réécouter la belle voix de Nina Companès, le À Voix Nue de Séverine Liattard, et réalisé par Anne-Pascal Desvignes, a été remis en ligne en une sur notre site internet franceculture.fr.
Et on poursuit, Benoît, avec votre revue de l'actualité culture et média de la semaine passée. Alors pour Pâques, lundi,
on apprenait via le réseau social Au Nom d'Oiseau que le cinéaste David Lynch posait un lapin à la chaîne du câble Showtime. Tous les fans de Twin Peaks attendaient en effet le retour de la série en 2016. Et si l'on en croit son tweet, Lynch lâche Twin Peaks. Car, dit-il, après un an et quatre mois de négociations, j'ai décidé de me retirer du projet parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le faire à la manière dont je l'aurais voulu. Une annonce pas si étonnante pour un réalisateur qui a une histoire plutôt compliqué avec la télé. Twin Peaks en 90 était considéré comme un accident industriel par les décideurs. On the Air, sa sitcom, il en a fait une, a été arrêté après seulement 3 épisodes. Et puis Mulholland Drive devait être une série et a été finalement abandonné pour faire le film que l'on connaît.
Mardi, c'était Mythologie.
Oui, le quotidien Libé s'arrêtait mardi dans ses pages culturelles sur la 20e édition du festival Mythos, le festival des arts de la parole, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rennes. L'occasion pour Maël Le Goff, le directeur de l'événement, de dresser un état des lieux du conte dans un festival qui avait pour but à l'origine de rénover l'image poussiéreuse du conteur. Et Maël Le Goff de dire, un peu plus loin dans l'article, qu'en réaction au contexte chargé, aujourd'hui, les artistes seraient plus dans la légèreté, là où ces dernières années, ils étaient, je le cite, proposaient, je le cite, des formes contemporaines de racontage qui avaient souvent une tonalité militante très critique et très sombre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin, ils font du stand-up, quoi, à peu près.
Un peu plus proche, oui.
Jeudi, c'était Fedorovski.
Eh bien, on apprenait hier dans les pages Figaro-ci, Figaro-là, le quotidien donc annonçait la publication chez Albin Michel pour début mai du nouveau livre de Vladimir Fedorovski, le titre La volupté des neiges. Cet ouvrage placé, je cite, sous le signe de la passion amoureuse et de la Russie éternelle devrait inaugurer une série historique en 3 tomes qui s'appuie, je cite encore, sur des lettres d'amour rares ou inédites signées Catherine II, Alexandre II, Dostoïevski ou encore Tchekhov.
Bon, et aujourd'hui ?
Eh bien, retour sur la situation à Radio France, comme le disait Stanislas Vazak à l'instant, où la grève a été reconduite jusqu'à lundi, et ce, juste avant la première prise de contact entre les syndicats et le médiateur nommé hier. Dominique Jean Chertier, qui s'est présenté comme un médiateur et non un négociateur, a expliqué qu'il prendrait le temps nécessaire. Les représentants syndicaux semblaient plutôt positifs à l'issue de cette rencontre. Renaud Delmar de la CFDT explique que Dominique Jean Chertier aurait une méthode. Il écoute, dit-il, il laisse parler les gens, il semble s'inscrire dans un temps long.
Ça s'appelle une psychanalyse. Continuez.
Voilà. Si Jean-Paul Kenson de Sud, lui, racontait sa volonté d'aboutir, il note par ailleurs qu'il faut à présent entrer dans le dur des débats. Et Philippe Ballet de l'UNSA déclare quant à lui qu'il va y avoir des mois de discussion. Et ce dernier espère, dit-il, que le médiateur sera là plusieurs semaines pour qu'on ait un plan stratégique totalement revisité. Fin de citation.
Il n'acceptera de négocier qu'avec une seule personne.
Trouve-moi, Sabian !
Négociateur.
C'est pas aujourd'hui qu'on m'enfermera.
Merci Benoît, on se retrouve lundi. Tout à fait, et puis j'invite les auditeurs à réécouter ce journal de la culture en podcast sur le site internet franceculture.fr.
Et cependant,
1000 jours.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités? Jean-Pierre Darroussin, il y a quelque chose à laquelle vous voudriez, que vous voudriez commenter?
Bien non, j'ai écouté attentivement. La seule chose que je pourrais commenter, c'est que c'est le rythme et le débit de l'actualité culturelle est frénétique, et donc ça fait plaisir de voir à quel point il y a tant de choses à voir.
Il n'a rien à envier à l'actualité politique. Vous allez bientôt entrer dans une série, enfin vous l'avez déjà fait, on va bientôt la voir sur Canal+, le Bureau des légendes d'Éric Rochant,
oui,
qui sera notre invité d'ailleurs mardi prochain.
Tant mieux.
Vous êtes d'accord avec ce que dit Nina Companese sur sa vision de la série? C'est la même pour vous?
En tous les cas, la façon de pouvoir développer plusieurs thèmes à la fois, de ne pas suivre qu'un seul personnage, et oui, il y a quelque chose de plus fleuve que dans le format plus court qui est celui du cinéma traditionnel. C'est pas inintéressant. Moi, ce qui m'a plu aussi dans le fait de faire une série, c'est le côté un peu démocratique de la chose, puisqu'il y a plusieurs metteurs en scène, donc les égos sont un petit peu moins concernés c'est un travail plus collectif, je dirais, une série.
Lev Dodine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter, puisque tout a été traduit simultanément par notre interprète?
Jean-Pierre a dit que tout allait très vite.
Je confirme.
Et qu'il y a eu énormément d'événements, il y a eu énormément d'actualités.
Et qu'il y a
beaucoup d'énergie dans tout ça. Mais je pense personnellement que l'on va beaucoup trop vite en règle générale. On lit trop vite, on fait trop vite, donc on va beaucoup trop vite.
Et люди в мире привыкают, что всё проходит мимо них.
Nous nous habituons au fait que finalement beaucoup de choses passent à côté de nous, ou nous passons à côté de ces choses.
Mais просто интересно, кто-нибудь приостановил свою машину, услышав, что Фидель Кастро
встречается justement savoir,
с Обамой.
Est-ce que quelqu'un s'est arrêté un petit peu, a pris une pause lorsqu'il a entendu que Barack Obama rencontrait Castro, ou alors il a continué à rouler dans sa voiture, il n'a même pas interrompu la conversation avec sa copine.
Et vous, ça vous fait penser à quoi, justement, cette rencontre entre Castro et Barack Obama? Лев Додин.
Ну, с одной стороны, это большое событие.
D'une part, c'est effectivement un très grand événement.
Я думаю,
à mon avis,
этому надо радоваться.
Je pense qu'on doit se réjouir.
С другой стороны, за эти годы на той же Кубе мало что изменилось.
Au cours des dernières années, il y a eu peu de changements à Cuba. D'une part, c'est très bien, c'est très positif lorsque l'on a ne serait-ce que les apparences d'une réconciliation. Mais d'autre part, il est triste de constater que finalement, on ne peut pas vraiment corriger les erreurs de l'histoire. Donc, malgré cette réconciliation, peu de choses peuvent être changées.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guérassignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
plateau Fils avec vous, Jean-Pierre Daroussin, acteur, réalisateur en 2005 pour Le Pressentiment, qui était l'adaptation d'un roman d'Emmanuel Beauve. Vous signez aujourd'hui Et le souvenir que je garde au cœur chez Fayard. C'est un titre qui emprunte à la chanson qui ouvre le plateau derrière nous, Le temps des cerises, interprétée par Jean Lumière. Cette chanson-là, c'est celle de votre père, celle qu'il interprète dès qu'il en a l'occasion. C'est aussi celle qui ouvre le récit et qui va le fermer comme un fil rouge par lequel vous racontez votre parcours à l'horizon de votre père, ouvrier tameur à Courbevoie, puis à Asnières, un marxiste pur et dur, officiellement athée, conteur et chanteur à ses heures. Ce livre, écrivez-vous, c'est une façon de lui rendre une terre qu'il a bien méritée, une terre vaste comme l'imagination. Qu'est-ce que cette chanson-là dit finalement de votre père, Jean-Pierre Daroussin ?
C'est une chanson qui est le symbole du peuple des travailleurs, des paysans, des gens qui se sont révoltés contre des injustices. Puisque c'est la chanson qui a composé Jean-Baptiste Clément et qui était lui-même en prison pendant la Commune. C'est une chanson qui, avec l'International, était la chanson qu'on chantait toujours à la fin des repas dans les familles communistes dont je faisais partie lorsque j'étais jeune. Donc c'est une chanson nostalgique, c'est une chanson... D'ailleurs, je suis content que vous ayez choisi la version de Jean Lumière, car c'était celle qui était la préférée de mon père. Il y a très belle version d'Yves Montand, de Charles Trenet, tout ça, mais celle-ci était vraiment celle qui était avec le roulement d'air, qui était celui vraiment que mon père... c'était sa façon de la chanter aussi à lui.
Vous n'étiez pas très manuel, dites-vous, pas franchement doué pour l'atelier de votre père, qui va vous laisser faire du théâtre, à condition d'en passer par une école d'État. Et vous parlez d'une forme de culpabilité quant à ce choix d'être acteur, au départ tout au moins. Est-ce qu'il y a eu le sentiment de trahison de classe de votre part ?
Oui, forcément, il y avait du déclassement, mais en même temps, j'étais quand même aussi porteur et j'étais là aussi pour représenter les gens qu'on ne voyait pas si souvent que ça à l'image ou au théâtre.
C'est-à-dire, on vous mettait dans quel genre d'emploi ?
Non, mais la façon d'aborder même les textes classiques, la façon de les travailler, la façon de les prendre à son compte par une lecture qui était une lecture plus... Oui, plus une lecture de la banlieue, une lecture plus sauvage, plus moins classique, plus en remettant plus en cause les dogmes qui étaient ceux de l'époque dans le théâtre. Donc, et une volonté aussi d'écrire nous-mêmes nos textes, d'écrire nous-mêmes nos pièces et de rendre compte de notre réalité de l'époque. Donc ça, c'était à travers le regard de ma génération et des gens venant du même milieu que moi. On avait quand même quelque part sans s'en rendre compte totalement, cette mission-là. Et j'étais pas doué physiquement pour le travail manuel. Pourtant, Dieu sait si j'ai observé mon père travailler, et si j'ai travaillé aussi avec lui, si j'ai répercuté, copié sa gestuelle et tout ça, et tous les autres hommes qui étaient autour et que je voyais travailler et qui m'ont imprégné, parce que c'était ça, c'était la culture des hommes. Mais c'est un monde qui était en voie de disparition, et donc je me suis mis assez vite dans le fait de transposer, de transcrire, de transmettre ça, mais à travers autre chose, à travers le théâtre, à travers le cinéma.
Lev Dodine, est-ce que vous comprenez ce qui est en jeu justement dans le parcours qu'a pu avoir Jean-Pierre Daroussin à partir de sa famille ouvrière ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à votre propre parcours en Russie ?
Я думаю, что мне очень интересно было слушать то,
что
говорит Жан-Пьер.
J'ai écouté ce qui a été dit avec une grande attention et beaucoup de curiosité.
Я думаю, что у каждого из нас есть история.
Je pense que chacun de nous possède une histoire.
И всегда это история развития.
Et c'est toujours une histoire d'une évolution.
В одну сторону, в другую сторону.
On évolue dans un sens ou dans l'autre.
И тот, кто пытается что-то делать в искусстве, собственно, и
Et
есть...
celui qui essaie de faire quelque chose dans le domaine artistique.
И есть продукт этого развития.
Est toujours le produit de cette évolution, de ce développement.
Et vous, если бы мы не переходили из одного круга в жизни в другой круг жизни, из одного круга знания в другой круг знания,
tel ou tel milieu, si on n'avait pas telle ou telle connaissance,
мы не делали открытия,
et en ne faisant pas de découvertes, on n'aurait rien à dire.
Vous êtes issu de quel milieu, Lev Dodine?
Мой папа был геолог.
Mon père était chercheur scientifique en biologie.
Геолог, ученый, бродяга.
Il était géologue et il était, c'était un baroudeur.
Который обошел буквально ногами всю.
C'était une personne qui s'est baladée partout.
Всю Сибирь.
Partout en Sibérie.
Это звучит довольно для Европы экзотически.
Je pense qu'en Europe, c'est vrai que ça sonne très exotique lorsqu'on dit qu'il a été partout en Sibérie.
Из детства считала, что я тоже буду геологом.
Et donc on a toujours considéré dans la famille que je prendrais le même chemin.
Что-то сломалось.
Alors il y a eu un truc qui n'a pas fonctionné.
On verra ça tout à l'heure avec vous. Manu Farine.
Jean-Pierre Daroussin, le livre raconte donc vos origines, la famille paternelle, maternelle, leur rencontre, la guerre, votre enfance à Courbevoie, puis Asnières, les années de petit boulot, la rue Blanche, le conservatoire, les premiers films, même votre groupe de rock, les Nervous Breakdown, ça ne s'invente pas, la rencontre avec Ariane Guédiguian, enfin Robert et Ariane Guédiguian, et puis il y a beaucoup question de Catherine Fro, avec qui vous avez été au conservatoire et avec qui vous avez partagé les années de la compagnie du Chapeau Rouge, qui était une sorte de kibboutz théâtral, c'est ce que vous dites, fondé donc à la fin des années 70. Tout y était libre, la seule limite en était le jeu. Quel théâtre est-ce qu'il fallait y défendre ou quel théâtre est-ce qu'il fallait y attaquer?
Alors, nous, ce qu'on avait, on avait travaillé un petit peu le clown, d'une part, d'une certaine, enfin, on sortait du conservatoire, hein, donc on avait une culture classique. Nos professeurs, c'était Antoine Vitesse, Marcel Bluval et des gens comme ça, qui avaient d'ailleurs, entre parenthèses, nous avaient un petit peu, lors du choix d'entrer au conservatoire, j'en ai discuté après avec Marcel Bluval, avaient un petit peu choisi justement de prendre des élèves issus de milieux populaires. C'était un petit peu, c'était une volonté qu'ils avaient à l'époque. Et effectivement, on s'est retrouvé à avoir un esprit de troupe dans cette école. On a très vite travaillé ensemble sur des projets et c'était pas du tout la recherche de l'épanouissement individuel ou la façon de mener une carrière pour devenir un acteur connu. C'était pas ça le but. Le but était vraiment de créer une école, un courant, une énergie ensemble. Et cette énergie, eh ben, dans un premier temps, beaucoup on a travaillé sur ce qu'on appelait nous le grotesque. C'est-à-dire quand la tragédie par un petit détail stupide devient drôle. Voilà, on essayait de travailler là-dessus sur vous voyez quand par exemple dans une tragédie quand le personnage va se tuer et va prendre le poignard et va se l'enfoncer dans le ventre, soudain il constate que quand même c'est un petit peu pointu et qu'il risque de se faire mal juste un petit peu avant. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est ce qu'on appelait le grotesque.
Il y a un autre acteur qui apparaît à quelques reprises dans votre récit, c'est Maurice Chevis. Alors, c'est un acteur qu'on connaît mal. Vous l'avez fait d'ailleurs jouer dans votre film Le Pressentiment. Oui. C'est un acteur qu'on connaît mal, mais qu'on connaît très bien. Mais si, Thomas Clerc, on le connaît très bien parce que c'était un perruquier amoureux de Dominique Lavanant. C'est celui qui met du fil dans la fondue, dans les bronzés fondus ski. Quel souvenir vous gardez de lui et en quoi est-il si important pour vous?
Maurice était important pour moi parce que... Quand j'étais gamin et que j'ai découvert le théâtre à la télévision, c'était dans des dramatiques qui se passaient à ce moment-là. Et je me souviens d'une qui était La charrue et les étoiles d'Ocazé. Et Maurice faisait une scène de soûlerie dans cette scène. Moi, j'étais jeune et j'ai compris à ce moment-là le plaisir que ça pouvait être d'être acteur. Et j'ai compris que c'était un métier et qu'on pouvait peut-être faire ça. Et que c'est en voyant Maurice Chevit à la télévision jouer La charrue et les étoiles que j'ai eu envie de faire ce métier.
Mais Maurice Chevit, c'est aussi votre propre angoisse, parce que c'est-à-dire c'est un acteur qui a été recouvert par un seul rôle de bouffon dans Les Bronzés font du ski. Vous y avez échappé de justesse, d'ailleurs, après Nos meilleurs copains en 88. Une grosse production vous a proposé de faire de vous le nouveau Pierre Richard. De quoi s'agissait-il exactement et d'où est venu ce malentendu?
Il s'agissait parce que bon, d'un seul coup, je jouais effectivement cette Uluberlu dans Mes meilleurs copains, qui avait eu du succès. Et comme d'habitude, l'industrie du cinéma a tendance à vouloir recycler les recettes qui marchent. Donc ils avaient eu envie de faire de moi une vedette, mais en faisant des films qui moi ne m'intéressaient pas du tout, qui n'étaient pas ceux que j'avais envie de voir. Donc ça ne correspondait pas à mon désir ni à mon plaisir. Donc j'ai décliné l'offre qu'on me proposait. Et pour continuer à travailler d'abord avec la troupe du Chapeau Rouge, dans laquelle j'avais l'impression de m'épanouir beaucoup plus. Et puis aussi, quand même, d'aborder le cinéma aussi en troupe avec Robert Guédiguian et Ariane Ascaride, dont j'ai rejoint le travail à ce moment-là.
Lev Dodin, vous avez été acteur un temps, avant d'être metteur en scène.
Ça a été une très brève période de ma vie.
Когда я поступал в институт театральный.
En fait, tout au début, quand j'entrais à l'Institut du théâtre,
еще не было 17 лет.
Je n'avais même pas 17 ans à l'époque.
А тогда в России, во всяком случае, считалось, чтобы
Et à l'époque, en Russie,
il
fallait avoir de l'expérience, il fallait avoir vécu pour devenir réalisateur.
Et поэтому...
ou metteur en scène.
Я поступил на актерский факультет.
Donc il a fallu que je passe par la période comédien, acteur.
А уже в ходе учебы проманеврировал и закончил.
Donc j'ai commencé mes études de cette manière et ensuite j'ai été diplômé quand même en tant que metteur en scène. Donc j'ai réussi à changer de direction en cours de mes études.
И кроме своей femme детства, я очень много играл в юношеских театрах.
J'ai énormément joué quand j'étais adolescent.
Так что я немножко побывал в шкуре актера.
Donc je sais ce que c'est finalement être acteur, être comédien.
Надо сказать, что это очень
Je dois vous dire que c'est dur, c'est difficile, ça peut être très cruel.
Et puis, quand je sers un artiste,
des fois, quand je j'ai envie d'engueuler l'acteur quand je lui en veux, je me souviens toujours, je pense à ça, je me dis, c'est encore plus dur pour lui que pour moi.
Et nous ?
Jean-Pierre Darroussin, au fond, ça fait un petit peu écho à ce que vous dites, vous aussi, parce que vous dites qu'au fond, vous auriez voulu mettre en scène avant même d'être acteur, mais que vous ne vous sentiez pas légitime et que donc vous avez commencé par être acteur. Qu'est-ce que ça a changé, justement, à votre pratique d'acteur, que d'avoir mis en scène, puisque vous dites que passer à la mise en scène a, d'une certaine façon, amélioré le jeu d'acteur, ou en tout cas, devrait améliorer le jeu d'acteur ?
Disons que c'est vrai que j'ai toujours eu ce désir-là. D'ailleurs, quand j'étais moi aussi au conservatoire dans l'école d'État, c'était finalement plus une école de metteur en scène qu'une école d'acteur. On étudiait beaucoup plus la sémiologie de notre attitude, de notre gestuelle, la façon dont on pouvait raconter une histoire et on nous avait appris à prendre vraiment en compte la mise en scène. Je vais donner un exemple. Quand j'étais sur scène pour jouer au théâtre, par exemple, moi, je pense qu'en tant qu'acteur, ça rejoint beaucoup le travail de metteur en scène de cinéma, puisqu'il s'agit de focaliser le regard du spectateur. Donc c'est ce que fait c'est ce que fait un metteur en scène de cinéma. Et donc le découpage de l'histoire, on fait des champs contre champs quand on joue. Lorsque je lance mon regard à la fin d'une réplique vers un partenaire, eh bien tous les spectateurs vont tourner le regard vers le partenaire et c'est eux-mêmes qui vont faire le champ contre champ. Si je fais un petit détail avec ma main comme ça, si je bouge ma main sur les gens vont faire un insert, vont focaliser sur un petit détail. Et cette lecture, ce travail de lecture, en principe, l'acteur, évidemment, doit en être conscient, même si c'est quelque chose qui se fait en relation avec le metteur en scène. Mais malgré tout, on est responsable de cette lecture et de cette focalisation de l'image vis-à-vis du spectateur. Donc on s'est très proche du travail de metteur en scène, d'être acteur finalement. On est comme des premiers violons en orchestre.
Jean-Pierre Darroussin, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici, c'est assez curieux ce que vous avez choisi. C'est curieux, mais c'est parlant. C'est quoi ?
C'est une chouette. Écoutez, comme j'ai eu envie de choisir un truc très simple, je n'avais absolument aucune idée. Et je me suis dit que ça serait simple à trouver, un bruit de chouette. Mais c'est aussi parce que je passe beaucoup de temps à Paris en ce moment et je n'ai pas le temps d'aller à la campagne. Et il se trouve que j'ai une maison de campagne avec des arbres et qu'en haut d'un effilier, j'ai une chouette qui habite là et qui, régulièrement, tous les soirs, à la même heure, se met à émettre ce bruit. Voilà. Et c'est, j'ai même pas besoin de regarder l'heure, je sais qu'il est 10h10.
Et là, il est 19h32. Ça marche pas, ça marchera tout à l'heure.
Le rendez-vous, la chronique.
Lève Dodine et Jean-Pierre Daroussin, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du vendredi, Thomas Clerc qui nous revient avec Society.
Oui, Society, comme vous dites, un nouveau magazine culturel généraliste, bénéficiant d'une large couverture médiatique et qui vaut 3,90€. Il se définit lui-même comme quinzomadaire. C'est là, j'en ai peur, l'essentiel concept, comme on disait dans les agences de pub en 82, de ce nouveau-né. Vous savez que dans le langage courant, un magazine qui sort deux fois par mois est appelé bimensuel. C'est ce que nous déclare le responsable anonyme de l'éditorial. Avant d'enchaîner, on préfère le mot étrange et mystérieux de quinzomadaire. J'approuve également ce choix, j'aime les néologismes, et quinzomadaire permet d'éviter d'ailleurs la confusion habituelle bimensuel-bimestriel. En revanche, le titre même du magazine Society ne me convainc guère. Pour l'étrange et le mystérieux, on repassera un peu. D'abord, la société, c'est un peu large comme ligne de mire. Il faut se méfier des vêtements surdimensionnés. Au moment des soldes, il reste toujours des costards taille 54. Et puis Society en anglais, bof bof, English means success, c'est ce que croient les prolétaires et les patrons, qui maîtrisent mal de toute façon n'importe quelle langue. Le journal se clôt à ce propos à la page 112 sur une BD à prendre l'anglais, qui est amusante, mais relève du niveau 4e, en atteste l'énoncé « But I love you », qui est quand même traduit. Les valeurs promues par Society pourtant sont a priori sympathiques. D'abord, il se clame que Society est un média de temps long. Ça s'appelle une psychanalyse pour vous paraphraser. D'autre part, que le papier n'est pas mort. Moi qui déguste encore les quotidiens en version feu de bois, mais attablé à une terrasse de café, surtout ces dernières semaines, je ne vais pas prêcher le contraire. Malgré ses beaux principes, il se dégage de Society, qui se voudrait actuel, un parfum qui rappelle justement très fort actuel, oui. Mais le actuel remixé de 1981. Même goût pour le reportage un peu trash, sur un baron de la drogue qui se dissimule derrière un visage inoffensif, même fascination pour des célébrités ineptes, comme Victoria Beckham, même goût fatigant pour l'insolite, le député canadien avait des survêtements trop serrés, la police indonésienne contre les pandas sexuels. Bon. On retrouve vraiment la devise de feu actuel, nouveau et intéressant, qui cache en fait des trucs pas très nouveaux et pas très intéressants. Qui a envie de lire un entretien fleuve de 6 pages avec François Fillon.
Quant à l'enquête, moi, les pandas sexuels, ça m'intéresse.
Oui, mais vous avez des goûts tordus. Lui aussi d'ailleurs. Quant à l'enquête sur les fondateurs de l'application Tinder, elle débouche sur une info sensationnelle. Ce sont des golden boys qui se définissent eux-mêmes comme cool, classe et fun. Un peu comme tout le monde aujourd'hui. Magazine presque exclusivement masculin dans sa composition. Il est d'ailleurs très laid. Malheureusement, les deux responsables de la mise en page appartiennent à l'autre catégorie sexuelle. C'est pas de chance. Il est vrai que le mot graphiste peut désigner, en plus de gens généralement sous-doués, aussi bien un homme qu'une femme. Il y a tout de même des points positifs, allez soyons optimistes. Un entretien avec le réalisateur de Timbuktu, Abderrahmane Sissako, qui est d'ailleurs assez agressif cet entretien, beaucoup plus que celui qui est fait de l'acteur Vincent Lacoste. Hein, comme si le magazine réservait ses questions vachardes à un interlocuteur de haut niveau, alors que le comédien doit répondre à des questions débiles avec tutoiement. Je trouve ça injuste. Le meilleur article est donc le plus sobre et concerne, il est assez passionnant, le déminage du Laos, pays sur lequel les Américains larguèrent 270 millions de bombes durant la guerre du pays d'à côté. C'est instructif et terrible. Comme l'explique un ancien professeur de français laotien de 84 ans, je hais les Américains, ils ont tout bombardé, brûlé et détruit. Si leur président était ici, je le giflerais. Voilà qu'il ne manque pas de punch. Le défaut principal de Society, c'est pas de manquer de punch, mais de ne pas avoir d'axe. L'axe, rappelons-le, n'est pas seulement un déodorant pour hommes, c'est aussi la raison d'être d'un journal, a fortiori quand on débute.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Vous avez l'air épuisé.
C'est fatigant,
les chroniques. Oui, c'est vrai. Plateau Fin d'un monde avec vous, Lev Dodine, metteur en scène. Vous êtes le directeur du Meili Mali Drama Théâtre de Saint-Pétersbourg, une institution en Russie, et ce depuis le début des années 80. Et vous êtes cette année à l'honneur du festival Le Standard Idéal. Et c'est dans ce cadre que vous présentez La Cerisée de Tchekhov au Théâtre Montfort à Paris. Une pièce écrite à l'orée du XXe siècle, 13 ans avant les révolutions d'octobre. Et la pièce se fait déjà l'écho par avance, en fait, de la fin d'un monde. C'est l'histoire d'une famille d'aristocrates russes qui rentrent dans long voyage à Paris. Lyubov et Léonide retrouvent leur domaine et leur domestique. Tout le monde est très content. Mais ils doivent faire face à une difficile décision. Ils ne peuvent plus entretenir cette maison qui appartient à la famille depuis des générations. C'est alors que le pragmatif et très beau Lopakhine, fils de Moujik devenu bourgeois, tente de les convaincre de vendre la cerisée et d'en faire des datchas de villégiature pour les touristes. La famille s'y refuse absolument, s'enferme dans les souvenirs et dans les valeurs qui ont déjà presque disparu.
disparu. Alors c'est une pièce sombre, peut-être presque la plus nostalgique de Tchekhov, écrite juste avant sa mort, et pourtant il l'a appelée comédie. Comment vous avez pris en compte cette tension-là, Lev Dodin?
Tout d'abord, merci beaucoup. J'ai enfin appris de quoi il s'agissait.
C'est pas vrai. Quelle mauvaise
foi.
Non, vraiment, je suis sérieux. Vous savez, parce que souvent, on me demande de raconter le spectacle en deux mots. Pendant les interviews. Mais c'est absolument impossible à faire.
À
une époque, Léon Tolstoï a été demandé, lui aussi, de résumer Anna Karenina. En fait, pour vous le raconter, il aurait fallu que j'écrive Anna Karenina encore une fois.
Что касается Вишневого сада и жанра комедии, здесь,
pour ce qui est du cerisé et de la comédie,
всегда было очень много споров и
толкований. Il y a toujours eu de grandes discussions là-dessus. Il y a toujours eu beaucoup d'interprétations différentes.
Я уже второй раз в жизни обращаюсь к этой пьесе.
Et c'est la deuxième fois que je mets en scène cette pièce.
У меня есть несколько объяснений, которые, в общем, все соединены в одно.
Un certain nombre d'explications, mais finalement, ce n'est qu'une grande explication.
Чехов писал, это последняя пièce Чехова.
C'est la dernière pièce de Tchekhov.
Писал ее буквально накануне смерти.
Tchekhov l'a terminé vraiment quelques jours presque avant sa mort.
Он о ней знал, он знал, что она вот наступает, что он смертельно болен.
Mais il savait qu'il était malade, il savait que la mort était là.
И больше всего он не хотел, чтобы ему сочувствовали, чтобы в нем видели
qu'il ne voulait surtout
умирающего
pas,
меланхолика.
C'est la compassion. Il ne voulait absolument pas qu'on voit en lui un mélancolique, dépressif et sur son lit de mort.
Поэтому он очень хотел написать смешную комедию.
Donc il voulait faire quelque chose de drôle avant de mourir.
И все время у него это не получалось.
Il n'a jamais réussi à faire quelque chose de drôle.
Никакая пièce не писалась так трудно у Чехова, как «Вишневый сад».
C'était la pièce qui était la плus difficile à écrire.
Он обещал своей жене, Книпер Чеховой, актрисе
МХАТа. Il a promis à sa femme, à son épouse, Книпер Чехова, qui était actrice du
замечательную роль комической старухи.
Il lui a promis un très beau rôle d'une vieille dame marrante.
А потом писал ей, знаешь, ничего не получилось,
puis,
не получилось
комическая старуха. И
вот так, мне кажется, он хотел взглянуть на жизнь с юмором.
Il voulait tout le temps voir la vie sous son angle marrant, drôle, avec humour.
И вообще человечески он пытался на все смотреть с юмором и с некоторым даже
c'est
цинизмом.
C'est d'ailleurs ce qu'il essayait de faire au cours de toute sa vie. Il essayait de voir des aspects drôles de chaque chose, de voir les choses avec beaucoup d'humour.
А его гений, его талант, гений, скажем.
Mais il y avait son génie, son talent.
Водил его перо и писал что-то совсем другое.
Et c'est son talent qui rédigeait toute autre chose, une chose et, tout à fait différente.
И если говорить о «Вишневом саде» как о комедии,
et
то
si
только...
Et si on parle d'une comédie...
Как о комедии жизни.
C'est la comédie de la vie.
Которая не так уж смешна,
la vie
которая
n'est pas
реальна,
si que ça.
И которая, в общем, кончается тем, чем она всегда кончается.
Mais nous avons véritablement dans cette pièce les réalités de la vie, et ça se termine comme ça se termine d'habitude dans la vie.
Lucille Comeau.
Lev Dodin, vous avez choisi une scénographie qui est très particulière. On la voit dès qu'on entre dans la salle. Il y a un billard au milieu de la salle, au milieu des spectateurs. Les meubles et les objets sont répartis devant la scène. Et la scène elle-même, elle est condamnée très vite par un grand écran blanc que les comédiens viennent tirer devant nous. Ce qui impose en fait aux acteurs de jouer devant la scène et dans la salle. Comment est-ce que cette forme-là s'est imposée pour cette mise en scène-là, Lev Dodin?
Non, vous savez... Чехов оброс такими историческими мифами.
Vous savez, il y a tellement de légendes autour de Tchekhov.
И мы, в общем, примерно заранее знаем, как его играть и что нас...
Énormément de mythes. Donc, en fait, tout le monde sait à l'avance comment il faut jouer, comment interpréter Tchekhov.
И что нас ждет.
On sait à l'avance la fin de la pièce. On connaît comment l'histoire se termine.
И что будет продаваться какой-то вишневый сад.
On sait, bien sûr, qu'un Cerisé est en train de se vendre.
Et какие de чудаки будут по этому поводу переживать?
Et qu'il y a des gens qui vont, qui vont être préoccupés. Voilà, donc on connaît l'histoire.
И я как интеллигентный человек, конечно, на все это смотрю, но в общем-то мне вообще-то мне все это по-русски говоря, до лампочки, ну вообще
je
мне на все
это. Je suis une personne bien
élevée,
donc je regarde tout ça вызывает. Poliment, mais moi je m'en fiche, pour ainsi dire.
А мне, нам хотелось, чтобы это была история, в том числе и про тех, кто сидит в зале.
Je m'en fiche de l'histoire telle que je voulais présenter. Ce que nous voulions faire, c'est une pièce, mais aussi sur ceux qui sont présents dans la salle, sur
чтобы,
les spectateurs.
Чтобы люди чувствовали, я не люблю слово зритель, чтобы люди чувствовали.
Je n'aime pas le mot spectateur, en fait. Je parle toujours des gens.
Что это их дом.
Et je voudrais que les gens ressentent ça, ils ressentent son appartenance,
et
leur appartenance,
бы, по ходу дела,
qu'ils
voient
cette maison, leur propre
сад,
maison.
В этот сад, потому что
je voudrais qu'au cours de la pièce, ils tombent amoureux de la Cerisé.
Поэтому мы не стали делать декорации, а сняли подлинный вишневый сад под Гамбургом.
Donc c'est pour ça que nous avons préféré faire des images d'un vrai Cerisé, d'une vraie Cerisé à côté de Hambourg et de projeter cette image.
Крупнейшая плантация, старейшая плантация вишневого сада, такой больше в Европе нет.
C'est la Cerisé la plus ancienne de l'Europe, celle que nous avons
filmée. Que vous avez filmée et que vous projetez sur les écrans, en effet.
Нам хотелось, чтобы люди ощущали, что это они теряют вишневый сад.
Et nous voulions faire ressentir aux gens que c'est eux qui sont en train de perdre cette cerisée.
Et le fait d'ailleurs que les acteurs jouent à l'avant-scène et dans la salle, ça veut dire que la cerisée est déjà perdue avant même que le spectacle ait pu commencer. Peut-être un commentaire de votre part, même si vous n'avez pas vu la pièce, parce que je sais que Tchekhov est votre auteur favori. Il y a même une déclaration dans laquelle vous pourrez dire que vous pourriez passer votre vie à jouer Tchekhov, Jean-Pierre Darroussin.
Oui, oui. Bah, la déclaration que je pourrais faire, c'est que je me demande si Tchekhov, qui a écrit cette pièce donc en 1904, était passé par Paris avant. Et Le Temps des Cerises a été écrit en 1870. Et il est probable que Le Temps des Cerises l'ait inspiré pour écrire La Cerisée, puisque c'est une chanson qui dit que si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Et que dans toutes les histoires de Tchekhov, c'est effectivement l'amour qui est toujours au premier plan.
Lucille Comeau.
En 1983, à Lev Dodine, vous prenez la direction d'une petite salle. À l'époque, c'est une petite salle de Leningrad, le Mali Drama Théâtre. À quoi est-ce qu'il ressemblait, ce théâtre, à cette époque-là? Quel était le répertoire qu'on y jouait quand vous y arrivez?
Oui, toujours beau, tac d'un.
C'était il y a si longtemps. Très sincèrement, j'ai peur de me souvenir tellement ça. Tellement sérieux.
C'était un petit théâtre. Который в 44-м году...
Il s'agissait d'une toute petite salle de théâtre
создали,
qui a été créée en 1944.
Сразу после снятия блокады.
Vous savez, il y a eu le siège de Leningrad et lorsque le siège a été levé, cette salle a été créée pratiquement immédiatement après.
Потому что театров в Ленинграде к этому времени почти не осталось. Они
Parce qu'il n'y avait plus de théâtre à Leningrad. Tous les théâtres ont été évacués, ont quitté la ville.
И он должен был нести какие-то начатки культуры ленинградцев.
Donc il fallait avoir une petite salle pour faire renaître cette tradition théâtrale, pour ramener de la culture aux habitants de Leningrad.
И самое главное жителям Ленинградской области только что освобожденной.
Et à Leningrad et aussi la région de Leningrad.
Поэтому это был такой маленький гастрольный
Donc
театр.
En fait, il s'agissait d'un tout petit théâtre qui était en permanence en tournée.
Который, с одной стороны, был очень демократичен.
On peut dire que c'était une formation démocratique.
А, с другой стороны, никогда не ставил перед собой больших художественных задач.
D'une part, mais d'autre part, ce théâtre n'avait pas de grands objectifs ambitieux.
И для большинства артистов это был такой,
Donc,
переходной пункт.
La plupart des acteurs,
куда-то дальше.
C'était simplement un point de transition, donc pour aller ailleurs.
Затем, когда я пришел,
lorsque je suis arrivé dans ce théâtre,
то именно в силу того, что он был вот такой, какой он был,
le théâtre avait ses particularités que dont je vous ai parlé.
У меня было ощущение, что его можно начать делать по сути сначала.
Mais j'ai eu l'impression qu'on pouvait finalement recommencer à zéro et construire ce théâtre.
Мне кажется, это самое интересное.
Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant finalement, de plus passionnant.
создать свой театральный дом.
Créer sa propre maison, son propre théâtre.
Со своими принципами, и художественными, и
этическими, человеческими. Avec ses propres principes, aussi bien artistiques qu'éthiques qu'humains.
Создал театр, который состоял бы не просто из отдельных хороших или очень хороших артистов.
Un théâtre qui n'était pas composé des acteurs isolés. Très bons acteurs, certes, mais des personnes isolées.
Которые, вот как Жан-Пьер говорил, понимают, когда надо уступать место другому артисту.
Mais il fallait réunir les acteurs, comme disait Jean-Pierre, qui sont conscients du moment où il faut laisser la place à l'autre.
Когда наступает мое, так сказать, место.
Qui sont aussi conscients de la place qu'ils peuvent prendre, sans gêner les autres.
Мне хотелось театр, создать театр, где все и в жизни,
je devais donc créer
и на сцене чувствуют себя непрерывно главным.
Un théâtre où tout le monde, chaque acteur sur scène et dans la vie, se considère le plus important.
Мне хотелось создать театр, который будет максимально независим от зрителя.
Et je voulais créer un théâtre qui serait très indépendant du spectateur.
Потому что я убежден, что сегодня привлечь зрителя в театре может только независимость от зрителя.
Je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, seulement un théâtre indépendant peut attirer le spectateur.
Собственно, есть... И, собственно, я для себя все время делю театры на те, где зритель по радио не покажешь, откидывается
où
на спинку кресла.
S'installe confortablement dans son siège.
Il dit, ну, покажите, что вы делаете.
Et dit, bon, allez, montrez-moi ce que vous savez faire.
И на театр, где зритель вдруг наклоняется
вперед. Il y a un autre théâtre où le spectateur se penche vers l'avant pour mieux voir.
И смотрит, чего это они так сосредоточенно живут. Они вроде не обращают на меня внимания.
Pourquoi ils sont en train de vivre quelque chose de très intense, ils ne font absolument pas attention à moi, comment ça se fait?
Надо разобраться, что ж так.
Il faut que je vois ça de près.
Для них важно. И я вдруг понимаю, что могу понимать вдруг,
et
что это важно для меня.
Le spectateur se rend compte que peut-être les choses qui se passent sur scène sont également très importantes pour lui.
Чтобы объединить такую компанию, понадобились долгие годы.
Pour réunir des personnes comme ça, des acteurs de ce type, il m'a fallu de longues années.
И сегодня театр состоит практически из моих учеников разных поколений.
Et aujourd'hui, le théâtre est composé finalement de mes élèves. Des années différentes.
Поэтому театр единство, я бы так
сказал. C'est pour ça qu'il y a une unité dans ce théâtre, et c'est pour ça que le théâtre est unique.
Et qu'il y a une sorte de mythologie d'ailleurs autour de vos mises en scène. Un commentaire, peut-être oui, Jean-Pierre Darroussin, parce que je vous vois regarder.
Oui, non, mais j'adhère évidemment complètement à cette vision du théâtre. Et
où le spectateur se penche vers l'avant plutôt que d'être enfoncé dans son fauteuil. Ouais.
Oui, je n'aime pas la position de sidération du spectateur. Évidemment que le spectateur doit être actif et aller découvrir évidemment la vibration poétique, et quand la vibration poétique qui est par exemple dans Tchekhov s'offre à tous les personnages, quand tous les personnages arrivent à faire circuler cette vibration poétique, eh bien le spectateur est évidemment passé un moment et est ravi et en même temps a compris quelque chose sur lui-même aussi.
Lucille.
Lev Dodin, comme à tous nos invités tous les jours, on vous a demandé d'apporter un son, de nous suggérer un son et vous avez choisi ça.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris.
Alors, la raison de ce choix, Lev Dodin?
Ну, знаете, может выглядеть только потому, что это Париж и Радио
Франс. Vous pourriez croire que c'est simplement parce que je suis en France et que l'on est à Paris. Que
oh non, on va pas croire ça.
Non, самом деле, это одно из сильнейших впечатлений.
Mais pour vous dire franchement, c'est une de mes plus grandes impressions d'enfance et d'adolescence.
Человеческих и художественных.
Sur le plan humain, mais aussi sur le plan artistique.
Yves Montand был первым.
Yves Montand était le premier.
Я бы так сказал, западным
человеком,
артистом,
le premier homme de l'Occident, l'artiste de l'Occident,
post-stalinskom sovietskom
Союзе, que l'on a connu à l'époque post-stalinienne en Union soviétique.
Во-первых, я воочию в первый раз увидел человека.
Tout d'abord, c'était la première fois où je voyais un homme, une
оттуда.
Personne qui venait de là-bas.
Потому что это было все-таки оттуда.
Est-ce que c'était vraiment là-bas? C'était loin. C'était un autre monde.
И во-вторых, я был заворожен его обаянием.
J'étais envoûté.
Его манерой.
J'étais totalement sous le charme.
В Советском Союзе в это время все-таки существовала довольно официальная эстрада.
En Union soviétique, à l'époque, il y avait du music-hall très officiel.
Все пели в очень строгих костюмах.
А tout le monde était habillé dans les costumes.
А тут вдруг вышел человек в потертом свитере.
Et là, tout d'un coup, on voit un homme avec son pull monter sur scène.
Il стал разговаривать с тобой так, вроде песни, но вроде так, как он с тобой
разговаривает. Et il te parle, parce qu'il chante, mais en même temps, on a l'impression qu'il est en train de te parler.
И это было огромное событие,
et
я помню...
Et ça a été un grand événement, un énorme événement.
Было не попасть на концерт.
Et je me rappelle, il était impossible d'acheter des places pour ce concert.
Et он давал бесплатный концерт в большой аудитории университета.
On a organisé un grand concert qui était gratuit à l'université, dans une salle d'université.
И наша компания мальчишек по стенке довольно опасно
et
забралась
donc,
на третий
nous
этаж.
Nous étions une bande d'adolescents et nous avons grimpé au quatrième étage pour passer par la fenêtre, pour assister à ce concert,
воочию,
pour le voir de nos propres yeux.
Уже не по телевизору, а вот так.
Parce qu'on l'a beaucoup vu à la télé, mais on voulait vraiment le voir en vrai,
пощупать.
Presque le toucher.
И, собственно, с этого в какой-то мере началась моя любовь.
Et je pense que c'est peut-être là qu'a commencé
к современному
mon amour
французскому искусству.
Pour l'art moderne, contemporain français. Je pense que chacun de nous possède une histoire. Et c'est toujours une histoire d'une évolution.
Mais c'est un monde qui était en voie de disparition.
Alors il y a eu un truc qui n'a pas fonctionné.
Merci à nos invités, Jean-Pierre Daroussin et Le Souvenir que je garde au cœur, apparu aux éditions Fayard. Je signale que vous serez à l'affiche de la nouvelle série Canal+, Le Bureau des Légendes d'Éric Rochon, qui sera notre invité mardi prochain. L'Ève d'Odine, La Cerisée, c'est formidable et c'est jusqu'au 18 avril au Théâtre Montfort à Paris dans le cadre du festival Le Standard Idéal, une programmation hors les murs de la MC93 de Bobigny. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Demain, il faudra attendre lundi, la session pop que l'on vient d'entendre du groupe Citizen, puis une émission théâtre allemand et peut-être Rome du vice avec Jacques Ozinski et Annick Lemoine. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Lucille Como, Aïssatou Endoy et Elsa Béranger. Actualité culturelle supplément week-end, Benoît Lagan et Zoé Sfez. Traduction Lydia Stark. À la prise de son, Emmanuel Morzincan et à la réalisation, Thomas Beau.
Ce soir, c'est la dernière émission de Lucille Como qui nous quitte pour un mois. C'est triste, mais c'est pour un heureux événement. Alors on l'attendra de pied ferme, fidèlement, au rendez-vous. Merci Lucille, et puis bon repos. Il est 19h55, vous êtes sur France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous, et bon week-end.